Just tell me what happened to him. Is he hurt? Is he alive? Where is he?
The tailor.
Ladies and gentlemen,
you recognize my voice?
This is your storyteller.
I'm happy to be here with you, and I'd like you to join me.
For the first time,
for more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
I realize what I'm about to say comes as a great shock. However, I'm counting on you to respond appropriately. Using great presence of mind, we rush to our closest laboratory. Our dream has been that by cloning, we would reduplicate the entire...
Music.
Let me know when you're ready.
That's a good start.
Le blanc a tué mon père, car mon père était fier. Le blanc a violé ma mère, car ma mère était belle. Le blanc a couché mon frère sous le soleil. Des routes, car mon frère était fort. Puis le blanc a tourné vers moi, ses mains rouges de sang m'a craché noir, son mépris au visage. Et de sa voix, maître. Hey boy, un berger.
Une serviette.
De l'eau.
Merci d'écouter Blabla Mix, le programme radio pour les réfugiés. Bien quitté, Blabla invité. L'association Tavadol est partie d'Olivo. Ils sont là, ils racontent.
Bijoux.
Fashion, la rubrique et la mode. On commence avec une leçon de Diakité.
Bonjour.
Bonjour Diakité.
Oui.
Tout va bien?
Ça va très bien, vous?
Tu vas parler quelle langue?
Je parle du Djoula.
De ton pays?
Oui, en Côte d'Ivoire.
D'accord. Et pour te dire l'alphabet de ton pays?
Oui, c'est R. On appelle là-bas Kélé, Tvila, Sava, Nani. Lolo, Waro, Rovla, Chiegi, Konodo, Tan, c'est le 10.
Pour te dire un peu doucement, s'il te plaît.
Voilà. Tu peux répéter?
Oui.
Ok, d'accord. Et on va dire ensemble?
Oui.
Kele.
Fila.
Saba.
Nani.
Lolo.
Waro.
Rovla.
Warovila.
Chiegi.
Konodo.
Tan. C'est ça, 10.
Ah, c'est les chiffres.
Ouais.
On peut refaire plus doucement pour permettre, bonjour à tous, aux auditeurs de répéter aussi.
D'accord.
Oui. Alors, on y va?
Ok. Oui.
Kele.
Fila. Saba.
Nani.
Lolo.
Woro.
Urovila. Chiegi.
Konodo.
Tan. Ah, c'est le 10.
C'est 10 alphabets?
Non, il y en a beaucoup.
C'est les chiffres.
C'est les chiffres. Ok.
Il y a combien?
Ouais, il y en a jusqu'à 32.
32?
Ouais.
Et bonjour. Comment on dit bonjour?
Bonjour, c'est Anisoroma.
Anisoroma.
Ouais.
Anisoroma.
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 Comme en Au Niger aussi, on dit Anisoroma.
Bon. Mais non, au Niger, on ne dit pas Anisoroma.
On dit quoi?
Bon, là, c'est Niger. C'est pas même langue Djula.
Il n'y a pas de Djula au Niger?
Non, il n'y a pas de Djula au Niger.
Et les Hanoussa? Le Hanoussa?
C'est les Aoucha.
Aoucha?
Oui.
Ils disent ça aussi. Bon. Et bonsoir, comment on dit?
Bonsoir. Aniwura.
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 Aniwura. Aniwura.
Et est-ce qu'il y a un bonjour pour midi?
Bon, un midi? Non, un bonjour, c'est un bonjour. On dit tout simplement Anisoroma.
Anisoroma.
Ouais.
Ou aussi, depuis peu, on dit Ani Blabla Mix.
Ani Blabla Mix.
Ouais.
Musique? La musique.
Oui, la musique.
La musique.
Et la...
Alpha Blondie, c'est qui en fait, Diakité?
Alpha Blondie. Oh, c'est une légende africaine. Et du coup, il est écouté à tout le monde, hein. En Côte d'Ivoire, au Mali, Sénégal, partout. Donc, il fait la fierté africaine.
Et il est ivoirien.
Oui, il est ivoirien.
Bravo.
Ouais.
Psychiatric hospital. psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong.
Bonjour Anne.
Bonjour Nipo.
Comment ça va?
Ça va bien.
Et tu vas interviewer qui?
Je vais interviewer Diakité. On a déjà entendu tout à l'heure nous dire les nombres, les chiffres en Diola.
Oui.
Diakité, tu viens de Côte d'Ivoire, donc oui. On l'a compris.
Oui.
Tu as 32 ans et tu es arrivé à Lyon le 5 août dernier, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc tu es demandeur d'asile et comme tous les demandeurs d'asile en début de parcours, tu attends d'être convoqué à l'OFPRA.
Oui.
Où ton avenir va se décider.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, avant d'arriver à Lyon, tu habitais à Abidjan.
Oui.
Abidjan, c'est la ville ivoirienne qu'on connaît le mieux, mais c'est pas la capitale de Côte d'Ivoire.
Oui, c'est pas la capitale. La capitale, c'est Yamoussoukro.
Mais la grande ville, c'est quand même Abidjan.
Oui, c'est Abidjan.
Et alors, jusqu'à ce que tu décides de partir, parce que t'as pas eu le choix, donc là, ça s'est gâté, mais avant, c'était bien la vie à Abidjan?
Oui, avant, c'était bien, c'était bien. Et actuellement tout va bien actuellement. Mais le 13 janvier 2017, bah, ça n'allait pas. Et du coup, maintenant ça va.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment était la vie à Abidjan? Par exemple, si tu compares à Lyon, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent ou est-ce que l'ambiance est très différente?
Ben, Abidjan, l'ambiance, chaque week-end, du coup, on est là, surtout à Yokouban. Le quartier le plus animé d'Abidjan, voilà, le cher week-end. Voilà,
on fait la fête.
On fait la fête là-bas.
Il y a d'ailleurs, si les gens veulent un peu découvrir Abidjan, il y a une BD, une bande dessinée et un film sur ce quartier-là, non?
Oui, Aya de Yokouban. Ouais.
Et donc le film, je ne sais pas si on peut le voir, mais la BD, en tout cas, on la trouve facilement et ça raconte très bien.
Ouais, ça raconte très bien. Et du coup, ça fait aussi, on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire.
Ouais. Donc toi, le week-end, tu faisais la fête à Yokouban?
Ouais, à Yokouban, comme d'habitude.
Et la semaine, tu étais très occupé aussi?
Ouais, la semaine où tu joues au travail. Ouais.
Donc, toi, tu faisais quoi à Abidjan comme travail?
Ben moi, je suis tapissier. Voilà, tapissier en Côte d'Ivoire, nous on fait des fauteuils, des canapés. Et en même temps, des rideaux, etc.
Et tu étais patron, tu avais des apprentis?
Oui, j'étais patron, il y avait au moins 5 apprentis.
Et alors ici, quand on se promène dans Lyon, bah les couleurs qu'on voit, c'est plutôt en ce moment un peu de blanc, mais du gris, du beige, des choses comme ça. Les couleurs d'Abidjan, par exemple, les maisons, les immeubles, c'est de quelle couleur?
Bon, il y a du blanc, il y a en même temps marron, il y a rouge aussi, rouge. Le blanc, marron, puis rouge.
Et alors, en ce moment ici, il fait très froid. Aujourd'hui, je sais pas, il fait zéro à peu près. Ouais, T'as déjà connu des températures comme ça à Abidjan?
Non, jamais.
Le plus froid, c'est quoi?
Non, jamais. En Côte d'Ivoire, si c'est le météo, c'est 30 degrés, et souvent 32 degrés.
Ça descend pas trop en dessous de 30?
Non, non, non. Si c'est trop 30.
toujours, c'est chaud.
Ouais, toujours c'est chaud.
Ça doit te faire bizarre alors.
Très bizarre. Très très bizarre.
Alors, tout à l'heure, tu as évoqué une date, c'était le 17 janvier, c'est ça? 17 janvier 2015.
Ouais,
ce jour-là.
Non, le 13 janvier 2015. Et actuellement, ça va.
Mais qu'est-ce qui s'est passé le 13 janvier qui a fait que toi, tu as dû quitter ton pays?
Non.
Ah non, là, tu parlais du 13 janvier de cette année.
Le 13 janvier de cette année.
Il y a eu une mutinerie, mais maintenant ça va.
En même temps, maintenant ça va.
Oui. Mais
et
toi.
Là, il y a eu maintenant un accord avec le gouvernement, le 13 janvier. Et du coup, ça va maintenant. Maintenant, tout va bien au pays.
C'était les militaires qui réclamaient qu'on leur paye
les militaires mutins. Et du coup, ils réclament 12 millions chacun. Francs CFA.
Mm-hmm. Donc, ils ont obtenu satisfaction.
Ouais,
maintenant, ça va. Est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi au mois d'août, tu as décidé de... Enfin, je ne sais pas si tu as décidé ou si tu n'as pas eu le choix de quitter Abidjan.
C'est une très longue histoire. Voilà, donc, du coup,
en résumé.
On va résumer. En Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je suis né le 5 août 1985. Voilà, donc, à Abidjan, j'ai fait tout à Abidjan. Et du coup, pour l'instant, Abidjan, il y a des camps qui est actuellement divisé.
Le pays est divisé en deux.
Le pays est divisé, mais pour l'instant, on fait avec. Mmh. Le président actuel, M. Ouattara, et l'ex-président, c'est M. Gbagbo. Donc, du coup, ça fait un peu des petits palabres souvent en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, du coup, ça n'allait pas. Donc, j'ai décidé de venir en France. C'est ça.
Mais pour toi, c'est aller assez loin. On s'en est pris à toi.
Oui, c'est allé assez loin. Et du coup, je me sentais pas trop en sécurité.
En gros, il faut, si on est ivoirien, on est obligé de s'engager politiquement. Toi, ce que tu m'as dit, c'est qu'en fait, tu n'avais pas le temps parce que tu travaillais beaucoup.
Ouais.
Et du coup, tu es devenu suspect.
Ouais.
Parce que tu ne faisais pas de politique, en gros, on peut résumer comme ça.
Ouais. En fait, politique, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis tapissier, j'aime mon boulot, j'aime mon métier. Voilà, j'étais beaucoup occupé par mes travaux. Et mes clients aussi, et mes apprentis. Voilà. Donc, à chaque fois que je sors, je cherche des marchés pour mes apprentis. Voilà. Comme je suis du là, ben, je ne suis pas obligé de suivre un pro Gbagbo ou soit un pro Ouattara. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit pro Gbagbo? Les partisans de l'ex-président, c'est eux, on les appelle les pro Gbagbo. Mais là, le président actuel, c'est M. Ouattara. Président actuel, dont on les appelle les pros du là. Donc, bon, j'étais beaucoup occupé par mes travaux. Mon atelier était incendié le 20 mai 2016. Et du coup, je suis quitté en Côte d'Ivoire le 4 août.
Donc, on a détruit ton outil de travail,
oui,
en fait.
Oui, mon atelier.
Tu t'es senti menacé.
Ouais,
et
ouais.
T'es venu reconstruire
c'est
ton
ça.
Avenir ici.
Ouais.
On en parle dans un instant.
D'accord.
Blabla Mix est un shoti Congo. Et tu vois le programme Réfugiés de Juno.
Blabla Mix, les.
Blabla Mix, Batini
Blabla Mix, c'est un lien entre les.
Bangladesh.
Kurdes.
Burkina Faso.
Bosnia.
Turquie.
Tunis.
Chine. Afghanistan.
Bahrain, Bikon, puis Blabla Mix.
Kosovo.
Irak.
Turc.
Bangladesh.
Guinée. Soudan.
Iran. Libye.
Pakistan.
Soudan.
Japon.
Blabla Mix is the program of refugee.
Diakité, tu es donc en France depuis le mois d'août maintenant.
Mm-hmm.
Pour l'instant, pour toi, c'est la période que vivent tous les demandeurs d'asile, qui est celle de l'attente, où on ne peut pas faire grand-chose, c'est
oui.
ça ?
Oui, c'est ça.
Alors comment on se sent quand on attend comme ça tout le temps ?
Mais on entend, et tu n'as rien à faire. Et du coup, tu essaies de voir si tu peux faire des bénévoles, un peu. Voilà. Donc, souvent, la journée, il y a des bénévoles. Ébéniste, tapissé, et du coup je pâte là pour aller juste pour aller pâte la journée là-bas.
Pour pas perdre la main aussi.
Ouais, voilà. C'est
où
ça.
Est-ce que tu peux faire ça?
C'est avant voler la soie. Voilà.
Et alors toi, ton projet pour l'avenir, c'est de pouvoir continuer à être tapissier?
Oui, parce que le tapisserie en Côte d'Ivoire, depuis à l'âge de 15 ans, 16 ans. J'ai fait une formation en Côte d'Ivoire avec. Et du coup, c'est ma vie, en fait. Et là, je maîtrise très bien. Voilà, donc j'essaie de le faire. Moi-même, j'ai pu créer des modèles. Voilà.
Donc, s'il y a un tapissier qui nous écoute et qui voudrait, dans quelques mois, embaucher un tapissier, toi, tu es prêt? Tu es prêt aussi, si c'est nécessaire, à refaire une formation ici en France, ou tu espères pouvoir, sans avoir à te former de nouveau, trouver du boulot?
Oui, je suis prêt pour ça. Mmh. Voilà. Ça, c'est mon souhait qui est là.
De refaire une formation
oui,
ici. D'accord. Voilà. Parce que c'est pas exactement le même métier ici en Côte d'Ivoire ou ça, c'est très proche?
Non, c'est le même métier, mais ici il y a une très grande différence entre Poussy et puis pour l'Afrique.
Voilà. Les gens ne demandent pas les mêmes choses peut-être?
Non.
Pas besoin des mêmes choses.
Ça dépend des matériels au fait.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? On sent que c'est une passion chez toi. Pourquoi
t'aimes
ça?
C'est une passion chez moi. C'est une passion chez moi. Au début, j'ai bien donné footballer avant. Et du coup, ouais, je faisais les deux ensemble. Je suis au foot et en même temps, je suis ma formation de tapisserie. Donc du coup, ça n'allait pas les deux. Du coup, bon, à la fin, je me suis dit, c'est mieux de laisser le foot. Je suis un peu la formation. Parce que on avait une famille, on a une grande famille. Et donc, je suis le nez. Donc, c'est mieux d'aller travailler un peu pour venir un peu, donner un peu à ta famille. Donc, sur le football, c'est une pétan. Sinon, j'ai un talent, moi.
T'as sacrifié le football, alors.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu dur, quand même.
Ouais, j'étais dit, mais...
Tu continues à jouer un peu au foot, ici?
Ouais, souvent. Souvent, je joue avec des amis. Celui qui me voit, je lui dis, mais bah, t'as quitté, tu sais jouer au foot, hein? Et ouais, c'est ça. Mais là, je suis devenu vieux, là, et 32 ans.
C'est vieux, 32 ans.
Ouais, c'est vieux, c'est vieux.
Tu reviendras d'y acquitter, justement, pour interviewer un tapissier. D'ailleurs, s'il y en a un qui nous écoute et qui aurait envie de te rencontrer, on l'invite à nous écrire via, par exemple, sur Facebook, la page Blablamix, ou bien sur notre mail aussi.
D'accord.
Et puis, tu reviendras pour nous parler tapisserie avec un tapissier français.
D'accord.
Juste une question pour toi, Diakité, c'est Véronique qui est dans ton dos.
Oui.
Est-ce que toi, tu as un style de tapisserie? Est-ce qu'il y a un style ivoirien, un style Diakité? C'est quoi ton style?
Ouais, il y a un style Diakité. Ouais, il y a un style Diakité. J'ai des modes africains aussi, ici en France, on ne les fait pas.
Ouais. Donc, ça ressemble à quoi?
Bon, les fauteuils. Il y a des fauteuils africains. Ici, c'est des fauteuils confortables. Des fauteuils avec des ancres. Et nous aussi, on a notre modèle à nous aussi. Bon, ça peut plaire aussi à les Français.
Donc voilà. Peut-être que bientôt, il y aura des modèles de fauteuils Diakité en France qui seront dans nos salons.
Ouais.
Merci, Anne. Merci, Diakité.
Merci beaucoup.
Tu peux présenter la deuxième chanson pour d'autres pays?
Bon, j'ai préféré Tikenga Fakoli.
Et ouais, on va chanter tous avec lui, ouvrez les frontières.
Alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
j'aurai mille animaux en cage et battu nos forages. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève mes vides? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau.
Ouvrez les frontières, bien on les ouvre puisque nous allons partir au Liban avec l'association Tabadol. Tabadol, ça veut dire quoi?
Échange en arabe.
Bla bla bla, invité.
Avec nous dans les studios de Blabla Mix, Djihad, Zoé et Elodie. Bonjour Elodie.
Bonjour.
Un micro pour trois pour l'instant. L'association Tabadol existe depuis combien de temps?
Depuis 2008.
Et alors, à quoi vous servez?
Alors, on est une association d'éducation populaire et on travaille autour des thématiques de diversité et de lutte contre les discriminations.
Oh, les jolies expressions! Qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'éducation populaire? Est-ce que la société a besoin d'éducation?
Eh bien oui, enfin c'est notre parti pris. L'éducation populaire, ça a pour but en fait de donner le pouvoir d'agir aux personnes pour produire une société plus juste en fait. Lutter contre les injustices dont elles sont victimes, lutter contre celles qu'elles observent, lutter ensemble et agir.
Qui fait appel à vous?
On travaille avec différents types de structures, des écoles, des associations comme des centres sociaux, des MJC. Et on a également des partenaires à l'étranger.
Alors avant de rentrer dans le partenaire à l'étranger qui nous emmène au Liban, un exemple d'une MJC, qu'est-ce qu'elle peut vous demander et qu'est-ce que vous lui apportez concrètement?
Eh bien, par exemple, si une MJC
plutôt un quartier d'ailleurs. On va mettre de côté la MJC. Si la MJC, ça vous plaît, Elodie? Dans le quartier,
ouais,
c'est
okay. Bien. Eh bien, par exemple, là, on s'apprête à travailler sur un quartier de Lyon où on se rend compte qu'il y a des difficultés de dialogue entre les habitants et les structures qui sont sur place. De la méfiance sous fond de grande diversité culturelle, de diversité de langue dans ce quartier. Et donc nous, on va arriver, on va commencer par mener une étude avec des outils d'anthropologie pour comprendre vraiment ce qui se joue en fait, rencontrer les différentes personnes en jeu et après construire avec les personnes des propositions d'action sous forme de formation ou sous forme d'action directement auprès des publics et d'action dans l'espace public.
Action, c'est quoi un outil d'anthropologie?
C'est une étude en sciences sociales en fait. C'est venir observer, rencontrer des gens et analyser ce qu'on observe et ce qu'on entend.
Et alors quel va être le retour? Mais j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas partir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi avec Tabadol? Non, pour enlever le chat? Non,
non pas c'est pas vraiment ça.
Est-ce que par exemple vous avez eu une commande pour la radicalisation ou la déradicalisation ou plutôt de la prévention pour éviter que des jeunes soient radicalisés et embarqués dans des choses qui les dépassent?
Alors on n'a pas entendu d'avoir de commande pour commencer à travailler sur cette question. En fait, on est parti en interne, l'équipe de Tabadol, du constat qu'en France, il y a un grave problème avec l'islam. D'un côté parce que montée de racisme, de propos islamophobes, d'une peur, notamment depuis les attentats. Et d'un autre côté parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se radicalisent et qu'on ne comprend pas très bien ce phénomène. Donc on a eu pendant 2 mois avec nous une stagiaire en anthropologie, on y revient, qui a rencontré plusieurs acteurs sur le territoire du Grand Lyon qui travaillaient sur cette question avec les jeunes. Et de là, on s'est dit que nous, on n'allait pas se positionner sur la question de la radicalisation, mais plutôt essayer, modestement, de se placer comme alliés des populations arabo-musulmanes qui sont victimes de discrimination, en peut-être leur apportant les outils dont elles ont besoin pour mettre en place des actions, mais ne pas faire à leur place en tout cas. Et aussi en sensibilisant et en essayant de déconstruire les préjugés auprès des personnes qui ne sont pas de ces communautés-là, et préjugés qui sont véhiculés vraiment partout dans notre environnement en fait.
Alors cet atelier nous intéresse beaucoup, donc Elodie, je vous invite à venir avec ces gens de quartier et vous viendrez nous expliquer ce que vous faites ensemble. Mais pour l'instant c'est un autre projet qui nous intéresse, un projet qui a relié 3 nationalités, l'Allemagne, la France et le Liban. Et donc vous êtes partie à la découverte d'un camp de réfugiés au Liban. Je vous propose d'écouter un extrait qui est donc le résultat d'un témoignage que vous avez enregistré là-bas. Et c'est donc l'association Tabadol qui est aux commandes. Des questions à Djihad et Zoé. Elodie, qu'est-ce qu'on entend là ?
On entend un enregistrement réalisé par les jeunes qui ont participé à ce projet. Donc là, on entend les voix d'un jeune français, Djihad, et d'une jeune libanaise, Farah. Et donc, en fait, ils racontent l'histoire de personnes réfugiées qu'ils ont rencontrées au Liban, puisque nous avons mené l'été dernier 10 jours de projet au Liban autour de cette thématique avec des jeunes de ces trois pays.
Dipou ?
Oui. Bonjour Djihad.
Bonjour Dipou.
Comment ça va ?
Ça va, merci et toi ?
Oui, ça va, merci. Et tu es française ?
Alors, en fait, je suis italien d'origine tunisienne et ça fait pas longtemps que je vis en France. Et donc, je suis arrivé en France fin 2014. Et voilà.
Et tu es Levan, tu es dit quelle origine ?
Tunisien.
Tunisien. Et quand tu étais là en Italie, tu es déjà vu la victime de racisme comme ça ?
Mais en fait, oui, quand j'étais plus petit, j'ai vécu. Je vivais dans un petit village et j'étais le seul arabe, musulman. Et donc, j'ai vu quelques histoires de. Excusez-moi.
Il y a des chats dans le studio.
Ouais. J'ai vécu en fait des histoires de racisme parce que j'étais le seul jeune différent, entre guillemets différent, parce que j'avais des origines différentes, une religion différente. Et,
Mais c'est quoi par exemple ?
Par exemple, à l'école. Par certains professeurs ou même certains jeunes ou les familles de certains amis. Et donc je sais pas, je me rappelle une fois il y a eu un petit dispute avec un garçon et à la fin il m'a dit rentre chez toi sale tunisien par exemple.
D'accord. Et le professeur, ils ont bien avec toi ? Ils étaient bien ?
Les professeurs, ça dépend. Il y avait des professeurs qui étaient très bien, mais il y avait d'autres profs qui... ça ressentait en fait qu'il y avait des problèmes avec moi. Quoi.
D'accord, ça marche. Alors, pourquoi tu as accepté de participer à ce projet et le Tabado ?
Parce que... j'ai trouvé que c'était très intéressant de passer une expérience interculturelle, donc de rencontrer des jeunes différents. Dans ce cas, c'était des Allemands, des Libanais et des Français. Et donc, je pensais que ça pouvait me donner une grande richesse de le fait de voyager, de connaître d'autres personnes.
D'accord. Et tu es depuis longtemps avec cette Tavadol, avec Tavadol?
Non, pas longtemps. C'est en 2015 que j'ai connu cette association. D'accord. Et par la mission locale. Et donc là, on a fait j'ai fait le voyage avec eux en Allemagne et en France. Et en 2016, on est parti au Liban.
D'accord. Quand tu es arrivé au Liban, qu'est-ce que tu as vu exactement?
Mais j'ai vu beaucoup de choses et la chose qui m'a touché le plus, c'est voir les réfugiés syriens et les réfugiés palestiniens. Dans ce cas-là, on est parti visiter un camp syrien et on a rencontré aussi des Palestiniens où on a échangé par rapport à leur expérience.
D'accord. Pour tout décrire le squat, c'était comment?
Le
squat.
Squat.
Le camp de leur camp de réfugiés.
Bon, alors la première fois, on a visité le camp syrien et je peux décrire un peu la situation. C'était en fait, j'ai ressenti beaucoup de pauvreté. Il y avait des bâtiments vétustes, donc les gens, ils habitaient un peu, ils avaient pas un confort en fait. Ils avaient rien du tout. Il y avait des familles qui étaient jamais entières parce que ça manquait ou le père ou des certains enfants. Et donc c'était un peu ça.
Mais c'est dans des immeubles.
Il y a certaines familles qui le camp qu'on a visité, c'était il y avait des immeubles, mais pas tout le monde avait la chance d'avoir des
D'accord. Et maintenant bonjour Joey.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Tu es française?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et toi Joey, quand ton première expression quand tu es vu la squat?
Première quand, sensation.
Oui. Impression. Pardon.
Alors, moi, j'ai pas vu le camp de réfugiés parce qu'en fait, au Liban, on n'a pas pu tous y aller. Il fallait qu'on soit en petit groupe et donc le groupe a été séparé en deux et nous, on avait travaillé sur un autre projet. Et donc, c'est Djihad qui est allé, qui a pu expliquer. Nous, après, on a fait les enregistrements.
Et du coup, toi, tu étais sur quel projet?
On a fait d'autres projets à côté. On a aidé dans un chantier pour créer une maison des jeunes, pour D'accord. que les jeunes Libanais et les jeunes réfugiés, donc syriens ou palestiniens, puissent se rencontrer et puissent faire des projets ensemble pour lutter contre le racisme et pour créer du lien social.
Est-ce qu'il y a une différence entre les réfugiés syriens et les réfugiés palestiniens dans la société libanaise?
Il y a une différence parce qu'ils ne sont pas arrivés au même moment et que les enjeux géopolitiques étaient très différents encore à l'époque. Les réfugiés palestiniens ont été accueillis dans des camps et en fait ça a créé beaucoup de problèmes au Liban parce que ce sont des camps qui se sont refermés sur eux-mêmes et où maintenant il y a des difficultés pour les Libanais d'y entrer à l'intérieur. Et donc pour les Syriens, ils ont essayé de faire différemment. Ils n'ont pas voulu que ça refasse le même problème et donc les Syriens ont été accueillis vraiment partout dans le pays de manière assez diffuse pour pas créer des camps. Mmh. Et ça pose des problèmes parce que du coup ils ne savent pas non plus comment bien les accueillir. Et ils sont partout dans la ville, les Syriens, sans avoir forcément de bâtiments à eux.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça importe pour toi, cette expérience?
Ça a été une expérience incroyable. Moi, je n'étais jamais allée au Liban. D'accord. C'était la première fois. Ça m'a beaucoup plu comme pays. C'était un pays qui était très chaud, très chaleureux, où il y avait beaucoup de monde et on a été très bien accueillis. Et de pouvoir rencontrer cette diversité de personnes, de travailler avec des gens aussi très différents, qui avaient des façons de réfléchir très différentes sur un projet d'inégalité de réfugiés. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de problématiques que je n'avais pas forcément en France. Et ça m'a apporté aussi l'envie de continuer à participer dans ce genre de projet, pour essayer de créer du lien et du partage mm-hmm. entre les gens.
Et tu étais pour combien de jours? C'est pour longtemps, à Liban?
Au Liban, on y est resté 10 jours.
10 jours?
Oui.
D'accord, après tu es revenu en France?
Après on est revenu en France, oui.
Alors, merci.
De rien.
Et juste nous rappeler ce qu'on a entendu au début, donc vous êtes allé, vous avez collecté les récits mm-hmm. de quelques réfugiés. comment vous avez fait ce dispositif qui fait qu'on écoute après des témoignages?
En fait, on a écouté les histoires des réfugiés et après, on a écrit les expériences qu'ils ont passées, en fait. Mm-hmm. Et donc, le enregistrement, c'était un travail qu'on avait fait en groupe et qu'on a pris de ces réfugiés.
Et pourquoi vous ne les avez pas enregistrés directement, eux? Pourquoi c'est Jihad qu'on entend et pas le Palestinien ou le Syrien, Élodie?
Alors ça, il y a une réflexion de l'équipe. C'est l'équipe qui a mis en place le processus et on ne voulait pas débarquer dans un camp de manière trop intrusive avec tout un matériel d'enregistrement, mm-hmm. refaire plusieurs prises, demander aux personnes de parler de manière très claire. Enfin, c'était pas imaginable en peu de temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on a préféré récolter par écrit leurs histoires et ensuite les reformuler. Sachant qu'on a également, avec les participants, fait un travail de contextualisation pour déconstruire aussi certains préjugés qu'eux pouvaient avoir sur les réfugiés, la situation. Et aussi un travail pour faire émerger leurs revendications pour changer la société, en fait.
Alors le Liban s'y connaît en réfugiés, puisque c'est un pays de 4,5 millions d'habitants. Et les réfugiés représentent combien de parts de population?
Un quart de la population.
Un quart.
À peu près, parce qu'on n'a pas de données chiffrées très exactes, ça dépend des modes de comptage. Mais en gros, il y a une première vague de réfugiés palestiniens qui sont arrivés à partir de 1948, où a été créé l'État d'Israël, qui en fait borde le Liban au sud. Donc ces personnes ont été installées dans des camps qui...
Ils ont été chassés de leur pays,
oui,
déjà, les Palestiniens.
Oui, ils ont été chassés.
Lorsque l'État d'Israël a été proclamé en 1948, donc.
Voilà, et ont été contraints du coup de quitter les terres où ils habitaient. Et beaucoup, en fait, se sont réfugiés dans les pays autour de l'actuel Israël.
Jordanie, Syrie, Égypte et Liban.
Voilà. Et au Liban, ils sont donc, depuis 1948, ils vivent dans ce qu'on appelle des camps, mais qui ressemblent en réalité à des sortes de grandes villes très peuplées, avec les rues très étroites. Il y en a 12 au Liban, 3 principaux. Et celui à côté de la ville où on était, donc Saïda, est le principal. Et les Libanais ont pour habitude de dire qu'il fonctionne comme un État dans l'État, avec ses propres lois, et où en fait les forces militaires libanaises ne peuvent pas entrer. Ces camps sont gérés par des milices de partis politiques palestiniens. Mm-hmm. Et donc depuis 1948, ces personnes ont toujours un statut de réfugiés.
Et alors que l'ONU les invitait, avec la résolution 194, de pouvoir rentrer chez eux le plus tôt possible et de vivre en accord avec leurs voisins, malheureusement, ce retour au pays n'a jamais été possible. Donc ils ont dû rester.
C'est ça, le Liban vit dans une situation complètement absurde, en fait, où les Libanais ont accueilli ces personnes dans l'idée qu'elles allaient ensuite retourner dans leur pays et en fait se rendent bien compte qu'elles ne vont pas retourner. De même, les Palestiniens espéraient retourner dans leur pays et ils se rendent bien compte que c'est pas d'actualité.
D'ailleurs, leur maison n'existe plus.
C'est ça. Et donc, depuis le début de la guerre en Syrie, il y a eu une deuxième vague d'arrivée d'immigrés, donc des réfugiés syriens. Et là, le gouvernement libanais n'a pas voulu reproduire cet isolement, en fait, des réfugiés. Et du coup, ils sont accueillis dans des camps de fortune, un peu partout dans le Liban. Il y en a une centaine. Mmh. Et également à Beyrouth, on voit beaucoup de personnes dans la rue. Et ces camps sont gérés beaucoup par des ONG. Donc il y a au Liban énormément de personnes qui viennent de pays européens, qui travaillent dans les ONG.
Et notamment Tabadol, qui passe par là avec Jihad. Jihad, juste pour conclure, le temps passe vite. Qu'est-ce que t'a apporté cette expérience ?
Mais ça m'a apporté une envie de faire, de travailler, de... construire moi-même des projets et notamment j'ai pensé de faire quelque chose en Tunisie, donc de retourner là-bas et travailler sur un projet interculturel et voir si je peux travailler avec faire un lien, construire un pont entre la Tunisie et l'Europe.
Et entre ton passé et ton présent? Pourquoi pas en Italie? Pourquoi un projet en Tunisie?
Mais c'est par rapport à mes origines et c'est par rapport aussi les besoins qu'ils ont, les Tunisiens, surtout maintenant.
Mm-hmm. Même question pour Zoé, peut-être. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce projet?
beaucoup de choses, beaucoup de découvertes et aussi des rencontres avec des personnes exceptionnelles, parce que autant en Allemagne qu'en Liban qu'en France. Et moi, je me destine à faire une formation qui est organisée par Tapadol d'animatrice interculturelle pour pouvoir moi aussi proposer des projets comme ça à d'autres jeunes. Et avec les rencontres que j'ai faites au Liban, peut-être et sûrement même monter un projet avec une personne qui était aussi dans notre projet au Liban.
Dipou ?
Oui, ça marche.
Ça marche. Ça te dirait qu'on fasse un blabla mix depuis un camp de réfugiés au Liban ? Faire de la radio au Liban ?
Au Liban ?
Oui. Be, vas-y.
Be. Livo.
Parce que le B n'existe pas en bengali, c'est ce que l'on comprend. Pour terminer, Elodie, quelles sont où retrouver toutes les informations si les gens sont intéressés par Tapadol ?
Eh bien, sur le site web de Tapadol, www.tapadol.org.
Et puis, une dernière chose, vous donnez des cours de français à la plume noire.
C'est ça, alors ça c'est pas dans le cadre de Tapadol, c'est à titre personnel. Je donne des cours de français avec d'autres personnes le lundi soir de 18h à 20h à La Plume Noire, rue Diderot, dans les Pentes.
Alors merci beaucoup tout le monde.
Merci.
Merci beaucoup.
وانت كيف كان يومك؟ قدرت تتسجل بالمدرسة؟
رحت على الإدارة مرة تانية قالوا لي نفس الشيء لازم أنطر لحتى كل اللبنانيين يتسجلوا وإذا بقي مطرح بالصف إلي بيسجلوني يا رب أقدر كم
J'aimerais bien que Blabla Mix fasse des extérieurs, par exemple.
Je voudrais gagner mon statut de
la bonne santé
et bonne vie.
Je ne sais pas trop.
En Syrie. Mon statut et bonne santé et bonne vie.
En 2017.
Et Blabla Mix.
J'aimerais la paix.
J'aimerais
l'amour.
Faire Blabla Mix.
La force.
Faire l'amour.
Faire
l'amour
aussi.
Non.
Faire la Blabla Mix.
J'aimerais
en 2017.
Bien, en 2017. La bonne santé.
J'aimerais
toutes les bonnes choses.
Vraiment, j'aimerais beaucoup avoir les différents pays.
Trouver un travail.
Bonne année à tous. En 2017.
Bon Tapadol.
Bonne année Tapadol. Bonne année.
Blabla poche.
Hey, Mr. Ousmane.
Oui.
Comment ça va ?
Oui, ça va.
Alors, Ousmane, les auditeurs de Blabla Mix, peut-être vous reconnaissent à votre voix. On vous a entendu tout à l'heure en beatbox, léger tapis, magnifique improvisation. Mm-hmm. Et là, vous allez nous faire une démonstration de beatbox. Je vous propose tout de suite de rentrer dans l'univers de la bouche de Monsieur Ousmane. Oye, Ousmane. Ousmane,
oui.
Ça s'apprend la beatbox?
Bon, la beatbox, oui, ça s'apprend, mais c'est quelque chose qui est inné aussi à la personne. Moi, je dirais que la big box, c'est quelque chose d'abord qui est inné à moi. Et puis après, il y a... Comme on était gosses, on était enfants, et on se retrouvait tous ensemble avec les amis. Ça peut être des rappeurs. Et dans un endroit précis, ça peut être un lieu inachevé, que nous, on appelle souvent un temple ou un ghetto. Donc, c'est là-bas où j'ai...
En Guinée-Conakry ?
En Guinée-Conakry, oui, c'est là-bas où j'ai fait d'efforts à apprendre un peu la big box.
Dans des temples inachevés, c'est beau ?
Oui.
Il y a beaucoup de temples inachevés ?
Oui, il y en a beaucoup. Et ça peut être des maisons souterraines comme ça, et parce que là, il y a beaucoup de talents qui se retrouvent ensemble et chacun apporte un peu de son talent. En fait, ça donne quelque chose de potable, quoi.
Mm-hmm. Et c'était dans quelle ville, alors ?
Ah bon, c'est à Conakry.
À Conakry même ?
Oui.
Seulement des garçons ou les filles avaient le droit d'avoir des talents aussi ?
Bon, en particulier, c'est nous répétons ensemble avec les garçons, parce que seulement il y a des gens qui viennent aussi avec leurs copines aussi, c'est possible aussi. Mais en général, c'est avec les garçons, ça se passe avec les garçons.
Mm-hmm. Voilà. Tout à l'heure, Diakité était avec nous et nous racontait un petit peu le quotidien de Côte d'Ivoire. À Conakry, quand on est jeune et qu'on veut faire la fête, comment on fait pour savoir où ?
Bon, à Conakry, pour faire la fête, c'est facile. Et soit on fait des promos à la presse ou on se reconstitue ensemble. Entre jeunes, on loue par exemple une boîte de nuit, ou ça peut être aussi une maison d'un parent ou d'un autre, et c'est là où on fait la fête. En général, ça se passe bien parce que tout le monde ça donne, et on est là, on est tous contents, et on fait la fête jusqu'au matin, jusqu'au petit matin.
Avec ou sans produit ? Alcool, drogue, choses comme...
Non. Bon, ça dépend, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un peu alcooliques, il y en a qui ne sont pas alcooliques. Ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Mais...
Vous n'êtes pas alcoolique, je
non.
témoigne.
Non.
Contrairement à Dipou et moi-même.
Mais Véronique, et toi ?
Moi non plus.
No alcohol, no drugs.
Voilà, moi je suis un temple inachevé. Ouais. Alors j'aime bien, on se reconstitue dans des temples inachevés.
Ouais.
Et vous dansez la cumbia ?
La cumbia ?
Oui. Bah, vous m'avez donné une leçon de cumbia où j'ai rêvé Ousmane.
Non, j'ai jamais dansé, je sais même pas ce que ça veut dire.
Ah mais j'ai cru.
C'est la première nouvelle, ouais.
Ah mais je croyais que j'ai cru qu'on avait dansé la cumbia ensemble. En fait non.
Bon, peut-être que oui, mais je.
Tu sais, le
je
truc
connais pas
très
le
compliqué.
Nom.
Non mais c'est vous qui me disiez si c'est la cumbia, ok. Bref. Okay. Pour terminer cet échange, oui, au sommet de la culture interreconstituante. J'essaye de trouver des formules à éducation populaire, mais je n'y arrive pas. On termine en beatbox ?
Oui, pourquoi pas.
Respirons. C'est physique, hein, la beatbox, ouais. J'ai vu ça. Ouais. Alors, je vous laisse vous préparer. Et juste après, la mode en Côte d'Ivoire avec la nouvelle rubrique Fashion de Léna. Fashion. Bonjour Léna.
Bonjour Véronique.
Comment allez-vous ?
Eh bien ça va très bien.
Alors la semaine dernière, c'était la mode féminine en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, c'est la mode masculine. Y a-t-il une mode masculine en Côte d'Ivoire ?
Bien justement, justement, j'en profite que Diakité soit là pour lui demander s'il peut nous dire comment les hommes s'habillent, en fait, parce que la semaine dernière, justement, comme tu l'as dit, on parlait des femmes. Alors Diakité, est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, par exemple, tes amis, comment est-ce qu'ils, ou toi, comment est-ce que vous habillez au quotidien ? Qu'est-ce que vous portez ?
Ok, merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'habillent classique et chic. Voilà, donc on s'habille très bien aussi. C'est la tendance qui est là en Côte d'Ivoire.
Mais par exemple, qu'est-ce que tu avais l'habitude de porter, je sais pas, des jeans ?
Non, mais les jeans, les t-shirts, les chemises.
Parce qu'on en parlait la semaine dernière et tu me disais que les personnes avaient l'habitude de s'habiller en s'inspirant de la mode française. Est-ce que...
Si, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup copier à les Français. Voilà, donc, du coup, s'il y a une mode qui est sortie en France ici, et demain, tu trouves ça en Côte d'Ivoire.
D'accord. Mais et justement, je me disais, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la mode dans les grandes villes, par exemple à Abidjan et ailleurs ?
Ben, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, comme Boaké, comme Yamoussoukro, c'est le même style.
Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que tu viens de dire ?
En Côte d'Ivoire ?
Ouais.
À Boaké ? Boaké, c'est une ville.
Ah, d'accord, c'est des noms de villes.
C'est une ville. Et puis Yamoussoukro, c'est une ville aussi.
D'accord.
Voilà, donc, Abidjan aussi, c'est le même style. Le même style.
Ok. Mais du coup, j'imagine, d'après ce que tu dis, que toi-même, c'est un sujet qui t'intéresse et que, d'après ce que je vois aussi, tu as l'air de toi-même prêter attention à la mode.
Ouais, moi, je suis comme ça toujours. Hein. Je suis comme ça toujours. Donc, moi, j'aime m'habiller. Dans les chemises, les t-shirts, les jeans. Voilà.
Parce que oui, là, on voit que tu as une belle chemise bleu clair avec un jean, des baskets, etc. Tu as l'air plutôt d'avoir fait attention à ton look ce matin, mais comme tous les jours, en fait, c'est ça.
Ouais, merci beaucoup. Ouais, comme tous les jours, c'est ça.
Est-ce que tu t'habilles différemment depuis que tu es à Lyon ou pas du tout par rapport à quand tu étais à Abidjan ?
Ouais, différemment parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas du coup, 3 degrés là-bas. Il n'y a pas 2 degrés là-bas.
Et certes.
Du coup, on arrive ici, on voit 2 degrés. Et là, tu es obligé de porter des vestes, tu portes les manteaux, hein, tu t'habilles. Bon, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Tu portes un petit t-shirt, c'est tout,
oui.
C'est fini.
Certes. Ouais. Et du coup, en fait, j'imagine que si tu es tapissier, tu dois savoir coudre, en fait.
Ouais, je coudre à la machine.
Ouais.
Ouais, du coup, mais un tapissier, il faut savoir coudre.
Et t'as jamais eu envie de te fabriquer des vêtements, en tout cas bon, moi, j'aimerais bien savoir faire ça.
Non, pas encore. Là, un tapissier, tu peux coudre des tissus, mais c'est pas pour des vêtements. Ça n'a rien à voir pour les vêtements.
Bah après, il y a des vêtements en tapisserie aussi. Enfin, moi, personnellement, je fais la collection des sacs avec un motif tapisserie.
Ouais,
et
ouais.
Tu saurais faire ça ou pas ?
Oui.
Bon, bah, en tout cas, je te passerai peut-être une commande. Et
puis Léna, elle a des manteaux qui ressemblent à des fauteuils.
C'est vrai.
D'accord.
Bon, en tout cas, si jamais tu ne trouves pas de travail en tapisserie, j'espère pas, mais tu pourras toujours te reconvertir dans la mode. En tout cas, moi, je te passerai tes premières commandes, je pense.
D'accord.
Bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci Léna. Léna, tu as un blog de mode, est-ce qu'on peut connaître l'adresse ou c'est
oui.
Privé?
Non, c'est pas privé. Alors l'adresse c'est lenascameo, donc lenascameo.blogspot.com.
Merci beaucoup, merci à tous. Nous vous confions l'air, l'eau, le feu, les vents et le reggae dans un instant. Merci à tous. Une annonce ou deux la semaine prochaine, nouveau Singatour. Visitez sa ville en visitant la ville des réfugiés. C'est du tourisme comparé. C'est la semaine prochaine ou celle d'après, en fait, je ne sais plus. Allez voir sur le groupe Singa Lyon. Et puis l'association Alouane invite un chorégraphe, Rémi Assoun, et une poète, Fadwa Soleiman. Ils présentent leur court-métrage à la Maison des Passages, c'est 42 rue Saint-Georges. Certes, c'est le 3 février, mais prenez vos dispositions. En plus, il y aura un buffet syrien. C'est le 3 février avec l'association Alouane. Et puis la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas, vous irez voir, c'est un clown qui fait un stage de clown atelier clown Gestalt. Épatant, surtout qu'on va l'inviter. On devait l'inviter aujourd'hui. Et puis, j'ai oublié. Alors, j'aimerais beaucoup l'inviter la semaine prochaine. Sébastien, si tu nous entends, est-ce que tu peux venir la semaine prochaine enregistrer ou celle d'après en direct live? 4 et 5 février, c'est cet atelier de clown, Gestalt clown. Mais c'est quoi la Gestalt? Et le clown, c'est quoi le clown? Salut à tous, merci à Schumann qui réalisait magnifiquement cette émission. À la semaine prochaine. Bonjour chez vous.